ערב טוב לכולם, בוקר טוב, oui, j'allais dire בוקר טוב, mais non, ערב טוב, שלום, שלום וברכה, est-ce que on m'entend bien? Est-ce que on m'entend bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on est en place? Oui, eh bien, très bien. Si la réponse est oui, je pense qu'on peut alors y aller, hein? On va juste attendre qu'en régie de Midrashet Yehuda, on nous dit. Ah, alors vas-y. Oula, oula, ça va trop vite. Yofi. Donc, j'ai juste besoin d'un ishour d'un des membres de Midrashet Yehuda, Manitou. Et comme ça, on est lancé. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de... Bon, vous savez quoi? On va se lancer quand même, hein? On n'est pas à ça près. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et on y va, c'est parti. Alors voilà, Rabotai, Erev Tov les Koulam. On est parti pour notre, j'ai envie de dire, presque dernier chiour de la Torah, puisqu'on est arrivé à la paracha de Haazinu, Haazinu Hashamayim Vehaaretz. Ouh là là. Alors, les amis, il va falloir qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle. Il va falloir qu'on comprenne de quoi on parle un tout petit peu. Quand on parle de la paracha de Haazinu, Rabotai, eh bien, on parle de la conclusion. Voilà la conclusion proposée par Moshe Rabbeinu au peuple juif. Lorsqu'on parle de cette conclusion, eh bien, on doit d'abord et avant tout l'inscrire dans l'éternité. La paracha de Haazinu est une paracha particulière parce que elle va être soit lue avant Yom Kippour, soit lue après Yom Kippour. C'est-à-dire qu'elle entoure, quoi qu'il arrive, Yom Kippourim. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, c'est très simple. Les années où, entre Kippour et Sukkot, il y a un Shabbat, alors on ira à Haazinu après Kippour. Mais les années où il n'y a pas de Shabbat, hein, Chit Patrou, ma tochniot asuniot. Ouais. Yalla la briout pour les pitriotes. C'est parti. Je prends des pastotes. Ok, des pastotes que la peste les emporte. Yalla, la mode que bon, yalla, la peste, c'est le problème de la peste, c'est que c'est très contagieux et que donc si tu dis fais que les autres, nos ennemis aient la peste, l'Erteda, peut-être qu'ils vont nous refaire un coronavirus. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de souhaiter la peste aux autres. On a vu ce que ça fait, une maladie médabéquette dans notre monde. Donc, je sais pas, faut voir, faut réfléchir sur la peste. Quoi qu'il en soit, donc on est parachat à Haazinu, et on a dit, il s'agit ici de la conclusion. On a dit que cette conclusion, elle doit s'inscrire d'abord et avant tout, attends, cornflakes, franchement, là, les cornflakes, pour qu'ils leur poussent des cornes, peut mieux faire, hein, peut mieux faire, parce que bon, je vois pas l'intérêt de leur faire pousser des cornes, hein. Non, peut mieux faire. Bikitsour, je préférais les pitriotes, hein, si déjà. La conclusion de mon cher Rabbeinu, il doit s'inscrire dans le kavua. Et donc, je disais, cette paracha de Haazinu, elle est toujours soit avant Kippour, soit après Kippour. Et en fait, eh bien, pourquoi est-ce qu'elle entoure Yom HaKippourim? Parce qu'il n'y a rien de plus kavua que Yom HaKippourim. Et là, j'aimerais 2 secondes, avant de rentrer dans le texte de Haazinu, de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire de dire « il n'y a rien de plus kavua que Yom HaKippourim » Il y a une réalité qui est très particulière par rapport à cette journée. Aujourd'hui, on va à la synagogue, on est en mode corona, on fait des capsulotes. Hein? Attends, Trina. Non. Alors, Yoël, pour ce qui est de la Trina, Moi, j'ai déjà chez moi la trina, mais c'est chez Ishma Techinatenu. Chez Ishma Techinatenu, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Kitsour, Yom HaKippourim, aujourd'hui, on le vit à la synagogue. C'est-à-dire, ça va, on le vit à la synagogue. Mais à l'époque du Beit HaMikdash, Yom HaKippourim, t'es pas obligé d'être à la synagogue. D'ailleurs, il n'y avait pas de synagogue, véritablement, à l'époque du Beit HaMikdash. À la fin du Deuxième Temple, on a commencé à avoir des synagogues, 3-4, pour être exact, 6, mais c'était plus des endroits de rassemblement que des endroits de synagogue, de tfila. Mais qui sont, quoi qu'il en soit, pendant toute la première partie du Deuxième Temple et pendant le Premier Temple, il n'y avait pas de synagogue. Par contre, il y avait Yom Kippour. Et comment les Juifs vivaient leur Yom Kippour? Ben, c'est très simple. Il y avait ceux qui habitaient à Jérusalem et ceux qui n'habitaient pas à Jérusalem. Ceux qui habitaient à Jérusalem, certains d'entre eux allaient au Beit HaMikdash pour un peu voir l'ambiance qu'il y avait là-bas. Les Kohanim, eux, travaillaient très dur, c'est vrai, le Kohen Gadol encore plus. Mais les autres gens, la Mishnah dans Maseret Yoma va poser des questions qui nous montrent un peu le quotidien des gens à Yom HaKippourim. Parce que la Mishnah nous dit, si jamais pour aller garder dans ton champ, pour garder ton champ des voleurs, tu dois traverser un fleuve, est-ce que tu as le droit de traverser le fleuve à Kippour? Tu n'as pas le droit de te mouiller, tu n'as pas le droit de te mettre dans l'eau. Eh bien, on te dit, tu as le droit de traverser le fleuve à l'aller, mais tu dois y rester jusqu'à la fin de Kippour. Mais c'est-à-dire que dans la Gdeda Mishnah, les gens, ils allaient dans leur champ pour garder le champ. On ne va pas à la synagogue. Je veux dire mieux que ça. Quelqu'un qui arrive, qui a du mal à jeûner, et donc arrive Yom Kippour, il prend un somnifère pour dormir pendant toute la fête et se réveiller après Kippour. Eh bien, les amis, est-ce qu'il a profité de la capara de Yom HaKippourim? La réponse est oui. Lama ki itsumo shel yom mechaper. C'est un concept qu'on va retrouver dans le Rambam, que itsumo shel yom mechaper. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la journée en elle-même de Yom HaKippourim qui fait que, eh bien, la capara, c'est à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette journée? C'est-à-dire, pas dans ce que moi je vais faire à Yom Kippour, c'est pas dans mon comportement. C'est la journée en elle-même. La mamakara. Itsumo shel yom mechaper. Veinitem et nafshotechem, tu as raison. Bien sûr, Alex. Veinitem et nafshotechem. Comment? Bah, tu y as 5 choses que tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de te laver, tu n'as pas le droit de mettre des chaussures en cuir, tu n'as pas le droit d'aller avec ta femme. 5 choses, vénitem. Mais si moi j'ai envie d'aller dormir pendant toute la fête, c'est d'air. C'est moutard. Et pourtant, en faisant ça, en allant dormir et pas manger, j'ai fait vénitem. Et donc, à ce moment-là, je vais te dire, Mazé, il faut comprendre, Yom Kippour, c'est Yom Tov à la base. Yom Tov, t'as Orel, Atanaki. Si, ça marche si tu prends un somnifère, encore une fois. Parce que normalement, un homme normalement constitué, un homme avec un grand H, hein, je parle, eh bien, il est content de mettre des habits qui le, on va dire, qui lui font honneur. Il est content de se sentir propre. Il est content de bien manger, de bien boire. Et il est très content, surtout à Yom Tov, de pouvoir s'unir avec sa femme. Donc, si il doit trouver un stratagème pour pas le faire, bah déjà ça, ça l'embête. Moralement, ne serait-ce que ça, c'est veinitem, j'ai pris mon somnifère, ça me saoule de devoir prendre un somnifère parce que je tiens pas le jeûne. Mais ça veut dire que j'ai pas besoin de faire une action pour être dans l'ambiance du Yom HaKippourim. Alors, je mets des guillemets et des bémols, parce que le Rambam nous dira, il y a certaines avérotes où itsumo shel yom, ça suffit pas. Et il va quand même falloir aller demander pardon, et ainsi de suite. Mais le simple fait qu'il y ait certaines avérotes, à savoir mitzvat assez, ou alors mitzvat lota assez chez Nbokaret, si j'ai transgressé une mitzvat assez, ou mitzvat lota assez qui n'a pas de karet, alors je peux aller dormir. Ve itsumo shel yom mechaper. En d'autres termes, il y a dans cette journée de Yom HaKippourim quelque chose de fondamental. Quelle est cette dimension immuable de Yom HaKippourim? Je sais, on est à la veille de Rosh Hashanah, mais je ne sais pas si on va avoir un cours la semaine prochaine, je n'ai pas fait attention. Ce n'est pas grave qu'on dise un mot sur Yom Kippour, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette journée? Pourquoi elle est si hors du temps, si je puis dire? Eh bien, justement, parce qu'elle est hors du temps. Eh oui. Elle est hors du temps parce qu'elle vient marquer la fin de ce qu'on appelle la Seret Yemei Teshuvah. Nous dit le Rambam dans Ilkhot Teshuvah, bien que la Teshuvah et la Tzaka soient toujours bonnes, soient toujours bien, soient toujours bienvenues, Ben Asara Yamim chez Ben Rosh Hashanah Yom HaKippourim, Yafa Beyoter. Lama. Lama Yafa Beyoter. Eh bien, simplement parce que ces 10 jours-là, qui sont depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, la kapara est collective, la tchouba est individuelle. Donc, je ne sais pas si ça marche. Mais ben, je te dis, ça marche. Pour certaines avérotes, ça marche. Ok? D'ailleurs, tu le sentiras. Tu le sentiras. Si tu prends ton somnifère, tu le sentiras au moment où le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim pour les chaper al klal Israël. Toi, tu sentiras dans ton sommeil que Ishtana Machou. Tu verras. Tu verras quand le Kohen Gadol il va faire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu plus de mal, puisque le Kohen Gadol, c'est pas lui qui vient les chaper al klal Israël. Donc, on est tous obligés de bosser aujourd'hui. Moi, je parle de manière idéale. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette journée-là? Eh bien, c'est la fin, comme j'ai dit, de Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah, hein, entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, c'est quoi ces 10 jours-là? Quand on regarde la tefila de Yom Kippour, on va évidemment revenir sur tout ce qu'on a fait cette année. On va corriger. Par opposition, quand on regarde la tefila de Rosh Hashanah, hein, il ne s'agit pas du tout de revenir sur l'année qui vient de se passer. Mais bien au contraire, c'est l'année qui va commencer dont on parle. C'est-à-dire que Rosh Hashanah est le début de la nouvelle année. Yom HaKippourim, c'est le bilan de l'année qui s'est effacée. Donc la question, c'est les 10 jours entre les deux, à qui ils appartiennent? À quelle année ces journées appartiennent-ils? Telles. Ces journées appartiennent telles. Eh bien, nous dit la Gemara, Kidrei de Bele Shutfei, Lochemimei Velokrire. Une casserole qui appartient à des Shutafim, à deux propriétaires différents, elle n'est jamais chaude et jamais froide. Si tu ne fais pas tes Shuvah, tu ne seras pas nettoyé de tes fautes. Odapam, Shuv Pam, aujourd'hui tu as raison, mais je t'invite à regarder Ilchot Teshuvah du Rambam chapitre 2, où là-bas il te dit qu'à l'époque du Bet Amikdash, lorsque le Kohen Gadol fait son boulot, eh bien c'est Mechaper, même si toi tu fais rien. Je vais même essayer de te retrouver le texte là tout de suite, histoire que les choses soient bien claires. Alors attends, voir, évidemment, parce que maintenant, il va falloir que, hein, deux secondes. Alors, Ilchot Teshuvah. Voilà, deux secondes, ça arrive. Hop là, voilà. Et mais, on y est. Alors, alors, attends, voir, où est-ce que je suis? Tu vois, avec tes questions, toi? Bekitso, avant que je te retrouve le texte. Alors, voilà. Donc, à la chachet vetet dans le Ilchot Teshuvah du Rambam, chapitre 2. Afalpi shatshuva vehatzaka yafa leolam ve'asara yamim sheben Rosh Hashanah ve'yom Kippurim yafa biyoter. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Umiyad mitkabelet shenemar dirsho Hashem beimatzo karau beoto karov. Bema dvarim amurim beyachid. Aval betzibur kol zman sheosim teshuva ve'tzoakim belev shalem הם נענים שנאמר כל אלוהינו בכל קורנו אליו. אלא, לא רמב"ם קונטיני, די, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך, חייבים הכל לעשות תשובה או להתוודות ביום הכיפורים, נכון? רטוספר, אבל מה קורה סיום פבא? הוא מצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב יום, מערב היום, קודם שיוכל. אז פעם אולי אותו דיקווה? אבל, קונט, לא כהן גדול, מתוודה על כל העם, אנחנו קוראים לו להלכה יוד, כלומר כהן גדול, היא למתוודה על כל העם, הוידוי שנהגו בו כל ישראל, אבל שחתום, והוא עיקר הוידוי. עבירות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים, הכהן הגדול על כלל ישראל, מחפר על כלל ישראל. Et ça, ça ne marche que quand c'est le Kohen Gadol qui fait son boulot au Beit HaMikdash. Donc aujourd'hui, pas de problème. Aujourd'hui, tout le monde doit faire son boulot de Tshuva. Je dis simplement que pour les Averot, entre guillemets, Kalot, c'est-à-dire Avera al-Mitzvatase ou Mitzvatlotase Shen Bokaret, genre par exemple une Avera Kala, j'ai mangé du cochon, eh bien, si j'ai mon Kohen Gadol qui a fait Kapara al-Klal Israël et Vidouille al-Klal Israël, זה עובד עליי. מסתכל סיכונסי על בית המקדש, סיכונסי על כהן גדול. אוז'ורדוי תאו בישי תפסי פרלקז תשובה. קיצור, תוסה פורדיר כסיג'ור נלה, כמו שזה קדרי דבי שותפי לא חמימי ולא קרירי, כאין כסרול כאפרטיין די שותפים אלה שמי שוד, שמי פרד, פסקו לוי ורשופי, לוי ורופרדיר, אנסיטוויט. אתן סיפרי, לדי שורני אנטרו שנם כיפור, dans la mesure où elles appartiennent et à l'année qui vient de s'écouler et à la nouvelle année, eh bien, elles appartiennent à personne. Ce sont 10 jours qui sont me'al azman. Et comme ce sont 10 jours qui sont me'al azman, eh bien, c'est le meilleur moment pour revenir dans le temps et faire tshuva. D'ailleurs, on comprend qu'il y a 10 jours qui sont me'al azman, puisque l'année hébraïque est d'un côté solaire et d'un côté lunaire. Or, l'année solaire est de 365,4 jours, donc on arrondit à 365, et l'année lunaire est de 355,7 jours, on arrondit, 354,7 jours, on arrondit à 355. En gros, il y a donc 10 jours qui séparent l'année lunaire et l'année solaire, ce sont ces Asara Yamim qui n'appartiennent à personne. Donc Yom Kippour, c'est le si de ce moment qui est immuable, parce que justement pas lié à notre dimension du temps. Et donc, lorsqu'on veut conclure la Torah, eh bien, c'est fondamental de le relier dans Parashat Hazinu à cette notion d'immuabilité. Et c'est là que Moshe Rabbeinu commence dans la Parashat Hazinu en prenant à témoin ce qui est immuable. Hazinu Hashamayim va'adaber avetishma haaretz imrefi. Je parle au ciel et à la terre. C'est eux qui me servent de témoin. Cette Parashat Hazinu, elle est si particulière qu'elle est la seule à avoir une chalouka les aliyot déjà dans la Gemara. C'est-à-dire que si les autres parashiot, la séparation dans cette montée est très, finalement, très récente, puisque c'est à peu près 1000 ans qu'on a mis en place notre lecture à nous, eh bien, déjà dans le Talmud, il est mentionné clairement les différentes 7 montées de la parasha de Hazinu. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de savoir comment est construite cette parasha? Eh bien, parce qu'elle est justement la conclusion de Moshe. Dans cette conclusion, Moshe va mettre 3 points en avant qui sont sa conclusion de son message à Israël. Et ensuite, les 3 points qui viennent répondre aux 3 points lancés au début et une conclusion générale. Alors venez, on essaie de rentrer dans le vif du sujet de quoi il s'agit. La première dimension dans le début de la paracha, donc on est au chapitre 32. « Azino ha-shamayim va-adabera va-atishma aret simrifi ya-arof kamatar likri tizal katal imrati » C'est-à-dire, je prends à témoin la création tout entière. J'invoque le nom de Dieu. Mais à quel niveau? Le premier point que Moshe a envie d'emmener, c'est le point de la dimension de Sachar va-Onesh. Yesh Mishpat, Yesh Din, Yesh Dayan. Première conclusion fondamentale. Kadosh Baruch Hu dans ce monde marche selon Torah Tamishpat. En effet, c'est la première dimension. Sans cela, il n'y a rien. S'il n'y a pas de relation entre mes actions et les conséquences de mes actions, Shum davar lo chashuv. Donc la première dimension évoquée ici par Moshe Rabbeinu, c'est la dimension de Mishpat. Tov, il a fait. Ensuite, on arrive à la deuxième dimension. Dans le Sheini, donc vous pouvez sauter jusqu'au verset Zayin. Zechor yemot olam, binush not dor vador. Moshe nous dit, rappelle-toi, rappelle-toi les yemot olam. C'est-à-dire, on va jusqu'où? Adam Arishon. Binush not dor vador. D'où est-ce que tu vas apprendre l'histoire du monde? Ben, demande à papy. C'est pas seulement vrai pour apprendre l'histoire. Évidemment, quand on se pose, tous ceux qui ont eu la chance de le faire, qui ont la chance de le faire, qui auront la chance de le faire, quand tu as la chance de te poser avec tes grands-parents et que tu leur dis... On disait, il y avait un dessin animé comme ça en France, ça s'appelait Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Mais toutes les personnes qui ont eu la chance comme ça de s'asseoir avec leurs grands-parents et qui entendent les histoires, ils sont plus que captivés. Parce qu'on sait que c'est ça, c'est du vrai. Ça, c'est du Emmet. Moi, je me rappellerai toujours, il y a deux ans. Non, l'année dernière, qu'est-ce que je raconte? L'année dernière, Chag HaPessah, donc pas ce Pessah qui vient de passer, mais le Pessah d'avant, il y a un an et demi. J'étais Pessah avec ma famille et j'avais la chance d'être aussi avec mes parents et ma grand-mère. Pendant Chol HaMoed, ma fille, elle vient voir son arrière-grand-mère, donc ma grand-mère, et elle lui dit, comme ça, en plein milieu comme ça de la journée, Chol HaMoed, elle vient voir dans sa chambre, elle lui dit, « Mamie, tu peux me raconter c'est quoi ton histoire de la Shoah ?» Bon, c'est une famille ashkenaz, hein, avec ce que je te dis. Elle dit, mamie, tu racontes-moi. Et ma grand-mère se pose avec son arrière-petite-fille, née à Jérusalem, et elle lui raconte sa version de la Shoah, son histoire, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle a survécu, comment elle s'est enfuie, comment. Et j'ai demandé après à ma fille, vous n'avez pas appris la Shoah à l'école? Un petit peu? Elle me dit, oui, mais à l'école, on l'a appris dans les livres. Avec mamie, on l'apprend en vrai. Elle m'a la saute. Sha'al avicha ve'agetra, la meilleure transmission, ça restera toujours nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est vrai dans l'histoire, c'est vrai dans la halakha, Rabotai. C'est vrai dans la halakha. Si tu as une question de halakha, va voir tes grands-parents. C'est le meilleur makor. Non, mais mes grands-parents, ils ne sont pas religieux. C'est-à-dire, s'ils ont une question qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, bah, ils ne sauront pas. Mais crois-moi que des parents, grands-parents qui ne sont pas religieux, mais il y a un truc qu'ils font en termes de judaïsme, tu peux être sûr que c'est Bessader d'après la halakha. Parce que ce n'est pas des gens qui ont étudié, qui se sont fait des pilpoulis, mais qui ont changé la version de leurs ancêtres parce qu'ils ont étudié. Si les grands-parents ils font, traditionnalistes, ils font un truc, qu'ils appellent ça du judaïsme, c'est que c'est ce qu'ils ont reçu de tradition de leurs grands-parents, qui ont reçu de leurs grands-parents, et ainsi de suite. Donc, She'al avicha ve'agetra, zekenecha ve'amroulach. Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut leur demander d'après la paracha? Be'anchel elyon goyim be'afrido b'nei adam, yatsev gevulot amim le mispar b'nei Israël. Voilà, demande à tes parents qui te racontent un peu l'histoire d'Israël. Ça commence avec Be'anchel elyon goyim be'afrido b'nei adam, c'est Abraham. Qu'il a séparé du reste des peuples pour finalement arriver à Yatsev Gevulot Amim, que Mispar Bene Israël. Mispar Bene Israël qui descend en Égypte, c'est 70, de la 70 nations en bataille. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on est en train de demander ici? Pashut. Ki chelek Hashem amo, Yaakov Reven Nachalato. Im tsayo beeret mitbar, ou beto yala li shimon, yisuvenu yuvenenu, yitzarenu ki ishon ayo. Que Nesher Yair Kino Algozalav Yarachef, יפרוס כנפיו, יקחהו ויסעהו על עברתו. השם בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר. C'est quoi qu'on va demander à nos parents qui nous racontent l'histoire de nos ancêtres? Pourquoi? Pour qu'on sache quelle est l'alliance que Dieu a passée avec nos ancêtres. La première dimension de Arzino, c'est Akadosh Baruch Hu, Yesh Mishpat. Deuxièmement, sache qu'il y a une alliance immuable. On parlait tout à l'heure de la dimension d'éternité de cette paracha. Il y a une alliance entre toi et Akadosh Baruch Hu. C'est la deuxième partie. Troisième partie. Yarkiveu ale bamotei, Yarkiveu al bamotei, Eretz veyochal tenuvot sadai, veinakeu devash misela veshemen machala mishtzur, חמת בקר וחלב צון עם חלב קרים ואלים בנבשן ועתודים עם חלב כליות חיטה ודם עיניו תשתה חמר. ג'וין זה תודני. וישמן ישורון ויבעת שמנת אבית כסית ואיתו שלוה עשהו וינבל צור ישועתו. תודה. La troisième dimension que Moshe met en surbrillance, c'est la béita du peuple juif envers Dieu. La révolte du peuple juif envers le Créateur. Elle est nécessaire, cette révolte. Elle est comme l'adolescent qui se révolte contre ses parents. Mais puisque c'est comme ça, tu te rappelles, Yesh Mishpat. Donc celui qui rejette, il faut qu'il s'attende à quelque chose. Et donc, ça nous permet d'arriver au Revi. Le Revi, c'est le plus long de la paracha. Vayar Hashem vayinatz mika'az banav ubnotav. Vayomer astira panay me'em er'ema acharitam kidor ta'apuchot ema banim lo amun bam. Ils m'ont rejeté? C'est-à-dire, pas de problème. Mida keneged mida. Je m'en vais. Vas-y, je m'en vais. T'es Dieu, tu peux pas partir. Non, mais je peux me cacher. Je peux me cacher. Vanochi aster astir panai. Vamer astira panai même. Voilà. Bon irai otam. Et une fois que astira panai même, et qu'ils n'arriveront pas clairement à montrer leur relation avec moi, alors, voilà ce qui va se passer. Em kin uni beloel. C'est-à-dire, ils m'ont remplacé par des dieux qui ne sont pas des dieux. Moi, je vais faire pareil. Moi, je vais les énerver avec un peuple pourri. C'est ça qui va les énerver. De quoi on parle? On parle ici de Acharit HaYamim, on parle de la conclusion que Moshe y voit par l'esprit prophétique. Et il nous dit, Rabotai, non seulement vous avez, vous allez rejeter Dieu. Et Dieu lui dit, ok, très bien. Vous avez rejeté au 19e siècle, pas de problème. Moi, je vais vous mettre face à une réalité. Vous avez servi des faux dieux qui n'existent pas. Moi, je vais vous faire vivre face à un peuple qui n'existe pas. Vous avez entendu parler du conflit israélo-palestinien? Voilà. Un peuple qui n'existe pas, c'est lui qui va vous mettre la misère. Mida keneged mida. Torah tamishpat. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors, ma Corée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est pas shoot. Fini. On arrive au Khamishi. Lou chachemu yaskilu zot. יבינו לאחריתם, איך הירדוף אחד אלף ושניים יניסו ורבבה, אם לא קיצורם מקרם והשם מסגירם. לא, אקסרה, כי לא קיצורנו צורם ואויבינו פלילים, כי מגפן סדום וגפנם ומשלמות המורה, אין אבמו, אין וראש אשקלות מרורות למו. חמת תנינים יין וראש פתיים אסקר, הלו הוא כמוס עמדי, חתום באוצרותיי. Toute la situation, eh bien, vous avez été capable, à un moment donné, de descendre très bas. même au niveau de Sdom et Amora. Aval, l'inakam veshilem le et temut raglam. Ki karov yom edam vechash atidot lamo. Ki yadin Hashem amo ve'alavada vitnecham. Ki yir'e ki azla yad ve'efes atzur ve'azuv. Ve'amar Elohemo, tzur chasanu, tzur chasayu bo. Asher chelev zevachemo, yochelu, yishtu yin, nesicham. יקומו ועזריכם ועזריכם יהי עליכם סדרם. ראו אתה, כי אני, הוא, ואין אלוהים ממדי. אני עמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. קדוש ברוך הוא אני, כי ידין השם עמו. Dieu va nous juger pendant toute cette période où il y a eu la beita. On avait dit au début, il y a eu Mishpat, ensuite il y a eu l'alliance, et ensuite il y a eu le rejet. Ensuite, on a dit, bon, très bien, Mishpat, ça marche. Mishpat, c'est Mida, Keneged Mida, pour nous, pour eux. Mais là, on vient dans le Chamishi, on nous dit, oui, mon ami, Dieu va faire le Mishpat au peuple juif. Et tu sais ce qui va se trouver dans ce Mishpat du peuple juif? Eh bien, c'est que ce peuple juif va être Néhéman à l'alliance. Pose la question, le Rahim Akadosh. Il dit, ma zacha adore la Géoula. Alors, Chaim HaKadosh, il voit déjà les prémices de la Géoula. Il dit, ma zacha, ma. Pourquoi Dieu nous fait la Géoula? On est pas un peu, on est un peu pourri en termes de Torah. Il dit, alors, Chaim HaKadosh, il dit, c'est quoi le mérite du peuple juif? Il dit, le mérite, il est évident. Le mérite, il est qu'au bout de 1600 ans d'exil, je parle à l'époque de Yochaim, au bout de 1600 ans d'exil, on aurait dû clairement être assimilé. On aurait dû clairement ne plus avoir de peuple juif. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait toujours un peuple juif après toutes les persécutions, après l'assimilation. C'est pas possible. Il y a toujours un peuple juif. Il y a toujours une identité qui est Néhémana, qui est fidèle à l'identité de ses ancêtres. Shem y a dynamo, mais les Tova. Parce qu'il regarde et il voit, waouh, après toutes ces persécutions, alors qu'il aurait été tellement plus logique et normal de voir le peuple juif disparaître, ils sont toujours là. Il n'y a fait rien d'autre à dire. Et donc à ce moment-là, eh bien, le Shishi arrive. Ki esa el shamayim yadi ve'amarti chay anochi le'olam im shanoti berak harbi ve'tochez ve'mishpat yadi yashiv nakam le'tzaray ulim mesanai ashalem. Mi ze ha'mesanai hazeh? HaKadosh Baruch Hu dit, vous avez été fidèle à votre identité, aval les nations, eux, n'ont pas été fidèles. Eux sont vraiment partis en cacahuète. Je vais devoir également les juger, eux. Mais évidemment, ça ne peut pas se terminer comme ça. Velachen, Askir chitze midam vechar bitochal basar, midam chalal veshivya mirosh parot oyev, arninu goyim amor, kidam avada vikom, venakam yashiv letzarav, vechiper admato amor. Au final, il va falloir aussi que les nations rendent des comptes de la façon dont ils se sont comportés pendant tout ce temps. Parashat Haazinu, c'est donc cette triplette qui ouvre, disant que Dieu est le maître du monde dans la justice, qu'il a passé une alliance avec le peuple juif, et que ce peuple juif s'en est révolté. Il s'en est révolté, donc il a dû payer les pots cassés. Il s'en est révolté, mais finalement, il a gardé quand même. C'est comme l'adolescent qui se révolte contre ses parents, mais à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui est resté en lui, et puis à un moment donné, il arrête de se révolter. Et puis il est toujours là. Et puis j'arrête de faire Shabbat, j'arrête de manger kasher, mais il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Rosh Hashanah, c'est le moment où on est mitraber, im kol ha-shofar. C'est un son, on le disait hier, qui vient toucher au plus profond de notre âme. Au plus profond de notre âme. Il y a à Cracovie une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire. Alors on raconte cette histoire-là quand on guide là-bas. Je l'ai entendu de la bouche même du Rav Israël Meir Lao. En 2005, le Rav Lao vient pour la marche des vivants. C'est un grand moment. 2005, c'est les 70 ans. On en a fait toute une histoire. Le Rav Meir Lao, Rav Israël Meir Lao, arrive à Cracovie et va pénétrer dans la synagogue qu'on appelle la Isaac Shul. La synagogue Isaka, Isaac. Et il y a une artisanat de Sefer Torah. Artisanat de Sefer Torah, il est fait. Une famille américaine qui a donné de l'argent pour faire l'artisanat. Fait mode. Le Rav Lao est mechoubad pour prendre le sefer et le faire rentrer dans la maison. L'homme qui a donné de l'argent pour le sefer, lui aussi est mechoubad, évidemment. Et on trouve là-bas également un homme qui a un bon 80 ans. Un bon 80 ans. Et il supplie le Rav Lao de pouvoir rentrer avec eux, avec le Sefer Torah, et de pouvoir le remettre dans le Aaron HaKodesh. Le Rav Lao, il parle très bien polonais, et il comprend les nuances du langage. Et l'homme lui dit, je te demande, s'il te plaît, il est en larmes, il dit, permets-moi de remettre, pas de mettre, de remettre le Sefer Torah. Alors, on ne va pas s'arrêter en plein milieu du Tekes. Le Rav Lao lui dit, reviens, mets aussi une main sur le Sefer et tout ça. Et après, il lui demande, raconte-moi. Il raconte que lorsque les nazis sont arrivés à Cracovie, dans la synagogue de Isaac, ils ont réuni tous les juifs du quartier et les ont enfermés dans la synagogue. Ils ont fermé dans la synagogue, elle est grande la synagogue, je ne sais pas combien il y avait de gens, et ils ont fermé les portes. Tous les juifs qui étaient présents racontent comment ils étaient en stress. Parce que pour eux, des ennemis d'Israël qui prennent des juifs, qui les enferment dans une synagogue, ça a des connotations du Moyen-Âge. Et tous s'attendent en silence de commencer à sentir la fumée. Parce qu'ils sont tous persuadés qu'ils vont mettre le feu à la synagogue. Comme ben, on faisait au Moyen-Âge. Et puis rien ne se passe. Jusqu'à ce que quelques minutes plus tard, il y ait un grand vacarme. Des cris viennent déchirer le silence. Des cris qui disent « Mais laissez-moi ! Mais laissez-moi ! Je ne suis pas avec eux !» Mais de quoi, de qui ? Les portes de la synagogue s'ouvrent avec violence et les nazis, deux officiers SS, balancent un juif en plein milieu du parterre de la synagogue. Tout le monde prend un pas de recul, le regarde et sont choqués, car tous connaissent cet homme. Cet homme qui vient d'avoir été jeté dans la synagogue, c'est Moïse le Glazman. Moïse le Glazman, à Cracovie, on le connaît bien. C'est un juif, mais il est le plus grand antisémite de la ville. Il déteste les juifs, il déteste son appartenance. À chaque fois qu'il y avait une attaque antisémite, un petit peu gros, comme ça, il était là. Parce que Moïse le Glazman, il pense que c'est parce que les juifs, ils sont différents des goïms qu'on a cette persécution. Il dit, on a marre de se la jouer différent. Moïse le Glazman, il est détesté par tous les juifs de la communauté. Et il est jeté comme ça par terre. Après avoir crié, mais je suis pas avec eux, je suis pas avec eux. À ce moment-là, le commandant SS qui est là, appelle le gabaï de la synagogue et lui dit d'ouvrir le Aron HaKodesh. Le gabaï refuse, il se prend un coup de crosse de fusil dans le ventre. Le gabaï accepte, il ouvre l'Aaron. Le nazi lui dit de sortir un sefer, de lui donner. Le gabaï refuse, il se prend un coup de crosse dans le visage. Le gabaï accepte. Et le nazi enlève le manteau du sefer Torah et le déroule au sol. Et il dit à Moïse le Glazman, il lui dit, t'es pas comme eux. Très bien. Je vais te donner une chance de le prouver. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Et je te signe un papier comme quoi tu es un arien, tu n'es pas un juif, et plus personne ne t'embêtera. Fais tes besoins sur le Sefer Torah. Michel Glazman dit, mais non, c'est pas, ça ne se fait pas. Ben quand même. Et le premier coup de crosse arrive. Et le deuxième. Et le troisième. Et entre chaque coup, on lui dit, mais allez, t'es pas comme eux, t'as dit, tu t'en fous, c'est un morceau de parchemin, tu t'en fiches. Il dit, mais non, je peux pas, je peux pas. Et au bout de 10 minutes où il a été martyrisé de coups, il baigne dans son sang. Et le SS se penche vers lui, il est au sol. Et il dit, tu sais quoi, Michel Glazman, juste tu craches. Juste tu craches et puis tu peux rentrer chez toi. Derrière lui, il y a les pleurs. Les pleurs de toute la communauté. Certains pleurent, comme on a dit dans le cours de hier, en guénouré. Certains pleurent, mais yalelei. Moshe le Glazman, qui n'a pratiquement plus de force, lève les yeux vers son bourreau et lui fait simplement comme ça avec le doigt. Il refuse une dernière fois et le SS lui mettra un dernier coup dans la tête qui mettra fin à ses souffrances. À côté du gabaï de la synagogue se tenait un enfant. 7-8 ans. Son fils. Tous ont été envoyés dans les camps. Son père n'a pas survécu. Le gabaï qui avait sorti le Sefer Torah n'a pas survécu. Mais le fils qui a survécu s'est promis qu'un jour, il ramènerait le Sefer Torah que son père avait sorti. Et il dit, bien que j'ai tout abandonné après la Shoah, le retour de Moïse le Glazman m'a montré que n'importe quand je pouvais revenir. Les pleurs de ce jour-là, c'était la sonnerie du chauffard. C'était ce moment tellement profond qui fait que. C'est Parashat Haazinu. Parashat Haazinu, Akadosh Baruch Hu vient et nous dit, au final, il faudra qu'il rende des comptes, tout cela. Et même si le peuple juif a abandonné pendant un temps, il peut revenir. Il pourra toujours revenir. Ve'yashiv letzarav ve'chiper admato amo. Arninu goyim amo ki dam avadav yikom. Dam avadav yikom. Vous savez comment ça a dû être difficile? Ah, je ne le plains pas, hein, t'en fais pas. Mais comment ça a dû être difficile pour M. Adolf Eichmann d'être jugé à Jérusalem par l'État d'Israël, par les Juifs redevenus forts? Qui dam avadav yikom venakam yashiv le tsarav vechiper admato amo. Une fois que Moshe a terminé de faire son compte-rendu de l'histoire, alors, ben, il peut se tourner vers sa conclusion générale. ויבוא משה וידבר אל כל דברי, את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. והיכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, וואלה לדרניר פרול במשה. ראש השנה, דמאן סואר ראש השנה, וואלה לדרניר פרול במשה. ויאמר עליהם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אני מעיד בכם היום. שימו את הלב. Mettez vos cœurs dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que je suis en train de vous dire. תשימו את הלב. זה ראש השנה. ראש השנה זה הלב הגדול והפתוח. זה ראש השנה. לבוחן לבבות ביום דין. לבוחן לבבות. ראש השנה זה למומן où on se rattache à la dernière directive de Moshe. Dissimu levafrem. Et moi, à Rosh Hashanah, je viens et je dis Ani Sam et Alev Po. Lachen le connaît Avadav Badin. Az Akadosh Baruch Hu connaît et Avadim Shelo. Ou connaît Otanu. Il nous prend sous son aile. Rabotai, la Torah aurait pu s'arrêter là. La Torah aurait pu s'arrêter là à la fin de la paracha de Hazinu. Mais vous savez ce que c'est? Quand on aime tellement un groupe, je vous le dis en tant que guide, quand tu as été comme ça 10 jours, 2 semaines, une semaine, avec un groupe et que tu as tellement créé des liens avec ces gens-là, tu vas faire le dernier discours au groupe, à l'aéroport, juste avant de les voir partir. Mais une fois que tu as terminé ton discours, bah, tu vas quand même aller voir chacun de manière individuelle. Ce sera la paracha de Vezot HaBeracha, où Moshe vient voir chaque tribu de manière individuelle et leur parle individuellement. Mais à Zinou, c'est la paracha où on vient terminer le grand dialogue entre Kadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Qui mineged, et c'est comme ça que se termine la paracha. Qui mineged tiré et aaretz veshama lo tavo. El aaretz asher ani noten livnei Israël. Toi, Moshe, tu t'arrêtes là. Aval, sache que l'histoire d'Israël continue et elle se déroulera dans son nouveau chapitre, ici, à la maison. Nous sommes la suite de la paracha de Hazil. Shana Tova, Vechak Sameach à tout le monde, et on se retrouve l'année prochaine, comme on dit. À bientôt les amis!